France Musique.
1941, la France vient de vivre une guerre, une défaite, une débâcle, un exode. Elle commence à apprendre l'occupation, sale période. Il y a des restrictions, mais l'appareil de production côté disque reste quand même un peu debout. On a l'ennemi d'hier, l'Allemagne, qui est devenue la puissance occupante. Elle sait valoriser son répertoire musical, parce que derrière, il y a la culture et l'identité qui va avec. Et dans cette idée, les dirigeants de Pathé Marconi arrivent à convaincre les autorités qu'on peut faire la même chose avec le répertoire français. On choisit donc un symbole, créé 40 ans plus tôt à l'opéra comique, Péléas et Mélisande de Claude Debussy, et on confie tout naturellement la direction à celui qui est le chef de cet opéra comique depuis quelques années, Roger Desormières. 6 mois d'enregistrement, oui, et à la clé l'une des intégrales d'opéra les plus fameuses.
Comme un oiseau qui n'est pas d'ici.
J'arrange mes cheveux pour la nuit.
C'est là ce que je vois sur le mur. Je croyais que tu avais de la lumière.
J'ai ouvert la fenêtre. Il fait trop chaud dans la tour.
Il y a d'innombrables étoiles, je n'en ai jamais vu autant que ce soir. Mais la lune est encore sur la mer. Ne reste pas dans l'ombre, Mélisande, penche-toi un peu, que je vois tes cheveux dénoués.
Je suis affreuse ainsi.
Oh, oh, Mélisande! Tu es belle, tu es belle ainsi. Penche-toi, penche-toi. Laisse-moi venir plus près de toi.
Je ne puis pas venir plus près de toi. Je me penche tant que je peux.
Je ne puis pas monter plus haut. Donne-moi du moins ta main ce soir, avant que je m'en aille. Je pars demain.
Non, non, non.
Si, si, je pars. Je partirai demain. Donne-moi ta main, ta main, ta petite main sur mes lèvres.
Je ne t'aime pas. te donne pas ma main si tu pars.
Donne, donne, donne.
Tu ne partiras pas.
J'attendrai, j'attendrai.
Je vois une rose dans les ténèbres.
Donc, je ne vois que les branches du saule qui dépassent le mur.
Plus bas dans le jardin, là-bas.
Ce n'est pas une rose. J'irai voir tout à l'heure, mais donne-moi ta main d'abord. D'abord ta main.
Voilà, voilà. Je ne puis me pencher davantage.
Mes lèvres ne peuvent pas atteindre ta main.
Je ne puis me pencher davantage. Je suis sur le point de tomber.
Ce que c'est, tes cheveux descendent vers moi. Toute ta chevelure, Mélisande, toute ta chevelure est tombée de la cour. Je les tiens dans les mains, je les tiens dans la bouche. Je les tiens dans les bras, je les mets autour de mon cou. Je n'ouvrirai plus les mains cette nuit.
Laisse-moi, tu vas me faire tomber.
Jamais vu de cheveux comme les tiens, Mélisande. Vois, ils viennent de si haut, ils m'inondent encore jusqu'au cœur. Ils m'inondent encore jusqu'au genou. Et ils sont doux comme s'ils tombaient du ciel. Je ne vois plus le ciel à travers tes cheveux. Tu vois, mes deux mains ne peuvent plus les tenir. Il y en a jusque sur les branches du saule. Ils vivent comme des oiseaux dans mes mains. Ils m'aiment plus que toi.
Laisse-moi, quelqu'un pourrait venir.
Non. Je ne te délivre pas cette nuit. Tu es ma prisonnière cette nuit. Toute la nuit.
Couleur unique de cet enregistrement de Pelléas et Mélisande de Claude Debussy en 1941 sous la direction de Roger Desormières. Vraiment un disque mythique pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour le résultat, pour ce qu'on entend ici, pour la distribution bien sûr, Jacques Janssen, Irène Joachim en Pelléas et Mélisande. Cette distribution, eux et les autres, avaient été réunis par un producteur là-dessus, enfin directeur artistique comme on disait alors, qui n'était pas un homme de la technique au départ, mais un musicien et compositeur, Louis Betts, qui d'ailleurs quelques années après se retrouvera à la tête de l'Opéra Comique. Il y avait aussi dans l'équipe de production un monsieur Georges Wieser, dont je ne sais absolument pas s'il avait un rapport avec l'accordéoniste Gus. Mais enfin, toujours est-il que ce monsieur Georges Wieser avait été chef de chant au moment de la création de Péléas et Mélisande en 1902, 40 ans plus tôt. Et puis l'enregistrement est magnifiquement soigné, on s'en rend bien compte. À cette prononciation, qu'on entend tout dans les détails, chacune des syllabes et chez tous les protagonistes, c'était fait pour, parce qu'il fallait faire connaître Péléas et Mélisande, dont c'était le premier enregistrement intégral. Et le soin, disais-je, de l'enregistrement, ça c'est Roger Desormières qui avait pris le temps pour ça, un mois entier, entre avril et mai 1941, mais comme le chef n'était pas content de tout, il y était revenu au mois d'octobre de très nombreuses sessions, et même jusqu'au mois de novembre. Le résultat, c'est quelque chose qui passe encore les siècles.
Quel est ce bruit? On ferme les portes.
Oui, on a fermé les portes.
Nous ne pouvons plus rentrer. Entends-tu les verrous? Écoute, écoute. Les grandes chaînes. Il est trop tard, il est trop tard.
Oui,
voilà, voilà, ce n'est plus nous qui le voulons. Tout est perdu, tout est sauvé ce soir. Viens, viens, entends-moi comme un fou jusqu'au fond de ma gorge.
Se précipiterait. Il nous observe, il est encore immobile. Va-t'en, va-t'en, tout de suite, par ici. Je l'attendrai, je l'arrêterai.
Non,
va-t'en,
non.
Il a tout vu, il nous tuera.
Woo!
Comme me disait Antoine qui réalise l'émission à l'instant, c'est vrai que non seulement on comprend tout, mais la musique est tellement importante. On n'a pas besoin de visuel, on n'a même pas besoin d'opéra. La musique se suffit à elle-même dans ce final du quatrième acte de Péléas et Mélisande de Claude Debussy, version Roger Desormières en 1941. Les voix étaient celles encore d'Irène Joachim et Jacques Janssen. Redire quand même cette chose, c'est qu'on était en pleine période de restriction, entre autres sur les matières premières pour l'enregistrement, ce qui a rendu évidemment la production du disque encore plus difficile. Et puis pour l'anecdote, on venait en 1942 lorsque le disque paraît chez Pathé Marconi. On est encore bien sûr dans la période du 78 tours pour mettre en galette 3 heures de musique. Ben, c'est pas compliqué. À raison de 4 minutes par face, il faut 20 disques. Deux albums contenant chacun 10 disques 78 tours. Tout ça a été accompagné de plaquettes richement documentées, richement illustrées aussi. C'était tout un symbole en pleine période d'occupation débutante. Ça paraissait comme une sorte de revanche, ce Péléas et Mélisande, de revanche nationale, et puis le signe même au cœur du désastre de la pérennité de la culture française. Il y avait quand même le côté crépusculaire de Péléas qui était là, surtout dans les toutes dernières mesures de l'œuvre.
Attention, attention, il faut parler à voix basse maintenant. Il ne faut plus l'inquiéter, l'âme humaine est très silencieuse. L'âme humaine aime à son aller seul. N'est pas ici, Colo. Il lui faut le silence maintenant. Venez, venez. C'est terrible, mais ce n'est pas votre faute. C'était un petit être si tranquille.
timide et si silencieux. C'était un pauvre petit être mystérieux comme tout le monde. Elle est là comme si elle était la grande sœur de son enfant. Venez, il ne faut pas que l'enfant reste ici dans cette chambre. Il faut qu'il vive maintenant à sa place. C'est au tour de la pauvre petite.
Paul Cabanel en Arkel, Henri Etcheverry en Golo, c'était La mort de Mélisande à l'acte 5 de Pélias et Mélisande de Claude Debussy, version Roger Désormais enregistrée en 1941, apparue l'année suivante, de maintes fois reprise sur le label EMI. C'était pour aujourd'hui notre disque de légende à retrouver et podcaster sur francemusique.fr.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Au courrier des auditeurs, notre Brigitte me suggère les éléments de Jean Ferry Rebelle, symphonie avec un prologue, un chaos qu'on n'écoutera pas aujourd'hui, mais une suite qui rassemble juste en quelques petites pièces un lourd et une chaconne, un ramage, tous les éléments du monde, la terre, l'eau, le feu, l'air, enfin la nature, quoi.
Thank you.
Quelques extraits des éléments de Jean Ferry, Rebelle. C'était Christopher Good qui dirigeait l'Académie de musique ancienne. De la même Brigitte, une demande autour de Monsieur Kalivoda, qui a plein de noms possibles. Côté tchèque, Jan Václav, côté allemand, Johann Wenzel. Il naquit en 1801, mourut en 1866, se partagea entre Prague pour ses études et puis Linz, Munich, Donau et Schingen pour les différents postes qu'il a pu visiter. Compositeur fort prolifique, 450 pièces sur une vie qui fut pourtant pas si longue que cela. Et il y a quelques années, c'est le quatuor Talisch qui nous offrait un beau florilège de ses quatuors, fort beau ma foi. Thank you. L'Allegro moderato qui ouvre le premier quatuor à cordes de l'opus 61 de Jan Vaclav Kalivoda, enregistré il y a 15 ans tout juste, en 2005, par le quatuor Talitch.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Astre nouveau, extrait de Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau, c'était l'air d'une planète, parce que chez Rameau, même les planètes chantent. Et c'était donc ici Chantal Santon-Geffry qu'on entendait, qui sera ce soir en concert à 20h30 à l'église Notre-Dame de Pontoise, programme intitulé « Duel avec la Diane française » de Stéphanie Marie Degan. Alors lorsqu'on vous annonce des concerts, vous le savez, hein, depuis quelques mois maintenant, il faut toujours aller vérifier avant, même de 2 heures avant pour le soir, parce qu'on ne sait jamais comment ça se passe avec le confinement. Les annulations peuvent être très rapides et quasiment de l'heure sur l'autre. Mais enfin, c'est ainsi que devrait commencer tout à l'heure ce 35e Festival Baroque de Pontoise, festival qui est un des plus anciens côté musique baroque. Depuis 2 ans, il est dirigé par un artiste, le contre-ténor Pascal Bertin, qui a fait un très beau travail et qui fait venir beaucoup de beau monde. On ne va pas décliner tout ce qu'on devrait voir sur les semaines et même les mois qui viennent, puisque tout ça va se poursuivre jusqu'au printemps. Mais enfin, sachez qu'au début du mois d'octobre, tiens, les 2 et 4 octobre, la semaine prochaine, il y aura Jean-Luc Haut dans les partitas de Jean-Sébastien Bach. passe-pied et la gigue de la cinquième partita de Jean-Sébastien Bach par Jean-Luc Ho. Si vous voulez réserver vos programmes de concert, eh bien sachez que Jean-Luc Ho sera en récital vendredi à l'église Saint-Christophe de Cergy, la semaine prochaine le 2 octobre, et le dimanche 4 octobre à l'abbaye de Royaumont. Il jouera d'ailleurs les six partitas en ces deux programmes de Jean-Sébastien Bach sur six clavecins différents. Donc ce sera une expérience musicale et instrumentale à suivre dans le cadre de ce 35e festival baroque de Pontoise. Allez, encore une date pour ce festival. Celle du 1er octobre, c'est la semaine prochaine, jeudi, Bach et l'Italie en la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise. Bach et l'Italie, deux thèmes en apparence bien différents, mais il se trouve que Le Banquet Céleste et Damien Guillon connaissent les deux comme leur poche, donc il n'y a aucun doute, ils seront très bons au croisement.
Thank you. como con il mondo
più felice, più giocondo,
giocondo,
giocondo.
Et oui, pourquoi tant de haine et pourquoi tant de violence? C'est ce que semblent nous dire les protagonistes au final de ce Saint Jean-Baptiste d'Alessandro Stradella. C'était ici chanté par les membres du Banquet Céleste, Damien Guillon à la baguette, un excellent disque que vous avez dit plein de bien il y a quelques mois. Eh bien, ces musiciens, le Banquet Céleste et Damien Guillon, seront en concert jeudi en la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise pour le festival baroque de la ville de Pontoise, 35e édition du nom. Un grand merci à Flora Sternadel, Antoine Courtin, Adelino Mello et Maël Larfassor.
Eh, hey, Napoléon, on dirait que c'est la fin.
Oui, c'est la fin, mais pas de panique, Lafayette. On se retrouve lundi pour un nouveau relax et tout le week-end sur francemusique.fr. Bonjour, Elie Moreau.
Bonjour, Lionel Esparza.
Dites-moi une question comme ça, au hasard complet. Est-ce que Beethoven n'aurait pas influencé Bruckner aussi des fois?
Sans blague. Qui vous a dit ça?
Il me vient ça comme ça.
Vous avez croisé quelqu'un dans le couloir, peut-être
même
tout à l'heure,
pas.
Qui vous a dit ça. Exactement. En tout cas, il y a plus d'un point commun entre Bruckner et Beethoven et une admiration sans borne de Bruckner pour Beethoven. Je vous souhaite un très bon week-end, Lionel.
À vous aussi.
À lundi.
À réécouter sur francemusique.fr.